Bonjour à vous tous. C'est français. Bonjour à vous tous. Si certains vous disent que j'ai un accent, ne les croyez pas. C'est une fausse rumeur. Vous savez, j'ai un accent juste ici. Au Canada, je n'ai pas d'accent. C'est vous qui en avez. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de... Tout ce beau week-end à Paris-Bastille, ça a été une joie à chaque fois, à chaque intervention. Je quitte pour Montréal tôt demain matin. Et juste vous encourager, il y a un petit stand en arrière, à l'arrière, il ne reste plus beaucoup. Quelques livres, quelques coffrets, mais allégez mes bagages, s'il vous plaît, pour que je retourne sur Montréal plus léger que lorsque je suis parti. Vous voyez déjà le titre du message ce matin, « La foi dans la vie ». Peut-être vous vous dites, il y a une erreur, pasteur Denis, on n'est pas là pour croire en la vie. On doit croire en Jésus, on doit croire en Dieu, que Dieu est capable de changer quelque chose. Mais la foi dans la vie, vous voyez bien que c'est un petit jeu de mots que je fais. La perspective que je veux placer devant vous, c'est le fait que la foi soit présente au cœur de notre vie. La Bible, elle dit... que le juste vivra par la foi. Donc, la foi, pour nous, ce n'est pas quelque chose de secondaire. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas comme, vous savez, une trousse de premiers soins que l'on sent juste quand ça va mal dans la vie ou lorsqu'on est en situation difficile ou en urgence. Et là, on se met à chercher notre foi. T'as vu ma foi quelque part? J'ai vraiment besoin de la foi ce matin parce que là, j'ai un coup dur, vous voyez. Mais la réalité, c'est pas cela. C'est quelque chose qui se manifeste au cœur de notre vie. Et la foi change quelque chose dans la vie. Et ce matin, c'est la foi qui littéralement libère du passé, de ce poids du passé. Vous allez voir à partir de ce texte que nous allons voir dans quelques instants, que nous allons lire dans quelques instants. Indéniablement, le message de ce matin est un message d'espoir. L'espoir de voir les choses changer dans nos vies. Pour ceux qui luttent contre toujours les mêmes choses au fil des années, dans mon travail, dans mon ministère un peu plus spécifique, dans la spécificité de mon ministère, je m'intéresse beaucoup au changement, à la notion de changement, et je m'interroge sur le changement. J'essaie de trouver des mécanismes qui font que les gens changent. Pourquoi? Parce que vous savez, vous connaissez l'expression qui dit « tout le monde va aller au ciel », mais... personne ne veut mourir, OK? Mais tout le monde veut changer, mais très peu paient le prix du changement. Et un être humain, entre changer et ne pas changer, il ne changera pas, OK? On est fait de cette nature qu'on aspire au changement, mais malheureusement, on ne réussit pas à changer. Mais ce matin, c'est vraiment l'essence de ce message, l'espoir que les choses peuvent changer. Et dans ce récit, en fait, le récit va être celui de la guérison de cet aveugle qui s'appelle Bartimée. Ce récit est très symbolique pour moi parce qu'il illustre ce que Dieu peut et veut faire dans la vie de quelqu'un qui met sa foi en lui. Donc, l'essence de ce message met en relief toute la question de la foi, d'une foi qui change le cours de la vie, d'une foi qui nous libère du passé, du poids, de l'implacable qui littéralement nous cloue au sol, il nous empêche de progresser littéralement et d'évoluer. Si vous voulez, on va jeter un regard tout de suite sur ce texte. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi! » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. « Ta foi t'a sauvé. » On pourrait dire c'est Jésus qui sauve. Mais Jésus lui-même identifie le facteur qui a déclenché littéralement son action dans la vie de la personne. Le facteur qui a dénoué la situation auquel était aux prises Bartimée cet aveugle. Et pour saisir encore une fois tout l'élément désespérant de sa condition, on va se pencher un peu sur qui était au juste ce Bartimée. Cinq caractéristiques de la vie de cet homme. Premièrement, le texte le mentionne fort bien, c'était un aveugle. Donc, il est aveugle, c'est une personne handicapée. Il n'a jamais vu la lumière, il vit dans le noir, il n'a jamais vu d'arbres, de fleurs, n'a jamais vu ses parents. Peut-être, je ne sais pas quel est le niveau d'imagination d'un aveugle, je ne sais pas, parce qu'en fait, nous imaginons à partir d'images, de représentations de ce qu'on a vu et qu'on se ramène en mémoire littéralement. Mais quelle est-il de sa condition à lui, de ce qu'il connaît, de ce qu'il peut connaître? Et vous savez qu'à l'époque, la condition de l'aveugle était, je dirais à la limite, beaucoup plus pire qu'en ce moment, bien que dans certains pays, bien sûr, c'est semblable. Parce que nous, on a des associations pour personnes handicapées, il y a tout un soutien, une sensibilisation au niveau de la circulation, au niveau des rues, des trottoirs et tout ça. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus grave que ça. C'était littéralement une vie perdue, des rêves impossibles, des conditions invraisemblables, une situation très, très malheureuse et malsaine pour lui aussi. C'était aussi le rejet, la mise à l'écart de la société. Voici, c'est plus que de perdre la vue, littéralement, c'est de perdre la vie ou la qualité de sa vie et le sens de sa vie. Alors, non seulement Bartimée est aveugle, mais il est aussi un mendiant. Le texte nous mentionne qu'il se tient à la porte pour recevoir les aumônes. Bartimée est condamné, littéralement, à vivre au crochet des autres. Sa survie, la qualité de sa vie, son alimentation même, passe par ce que les gens vont lui donner. Alors, c'est une totale dépendance à la charité, littéralement, parfois à la pitié des gens autour de lui. Il vit donc, on peut s'imaginer, dans une pauvreté la plus abjecte et sans espoir de voir les choses évoluer, les choses changer. Il connaît déjà, il peut prédire, encore une fois, le parcours de sa vie pour les années qui surviendront. Mais la Bible rajoute un petit détail assez intéressant. On parle de Bartimée comme étant le fils de Timée. On dit Bartimée, le fils de Timée. Maintenant, la plupart des théologiens s'entendent que cette expression « fils de Timée » fait allusion à une continuité dans le temps, dans le malheur qui se manifestait dans le cadre de cette famille. En fait, Bartimée veut dire littéralement « le fils de Timée » et l'expression « fils de son père » veut dire « tout comme son père » et suppose que probablement son père lui-même était aveugle. Okay? Et que son père se serait écrié « un fils comme moi ». Maintenant, vous pouvez vous imaginer le drame de cette situation. OK? Le drame, par exemple, de donner naissance à un enfant qui vit avec un handicap. Il y a quelques deux semaines à peu près, j'avais quelqu'un à mon bureau qui était là, un jeune homme à la force de l'âge, et tout au long que je lui parlais, dans les premières minutes, je ne voyais jamais sa main. OK? Parce que tous ceux qui sont handicapés ont la capacité de se positionner, d'avoir une certaine posture que ça peut prendre un bout de temps avant de réaliser ce qui se passe au juste, pour me percevoir qu'il lui manquait une main littéralement, et c'est un accident de naissance, ils savent pas trop ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle communément un accident génétique ou quoi que ce soit, mais toute sa vie a été dictée, pas juste par les limitations physiques, mais tous les faits sur l'entourage, sur la société qui l'entoure, sur la réaction des gens, parce qu'on a tous des réactions devant une personne handicapée, et à ce moment-là, tout ça, à la plupart du temps, on pense pas qu'eux ne le ressentent, ces éléments-là, mais ils sentent sur eux le regard qui se pose. Et là, c'est implacable ici. Donc, de génération en génération, les choses qui se produisent et qui ne changent pas. Il est un aveugle, mendiant, tout comme son père, à la limite, quelque part. Et le texte mentionne qu'il est assis sur le bord du chemin. Petit détail, qu'on peut paraître insignifiant, mais pour moi, cela fait allusion à toute sa condition de vie. À chaque jour, on le lève, on l'amène vraiment à cette porte ou à cet endroit dans la ville, dans le village, et il s'assoit et passe sa vie à s'asseoir. Vous voyez avec son manteau, sa toge et tout ça pour s'habiller, et peut-être qu'il fait du bruit un petit peu avec la tasse qu'il a entre les mains ou le je ne sais pas ce qu'il peut avoir pour recueillir le monde. On en voit parfois ici un peu partout, aux bouches de métro et tout ça. Mais vous imaginez une vie passée assis. L'inverse de l'activité humaine, du désir de vivre pleinement, de saisir la vie à pleine main, condamné le reste de sa vie à rester assis dans cette condition-là, sans pouvoir se lever, pourquoi pas, parce qu'il est handicapé dans le sens d'une paraplégie, mais le fait qu'il est aveugle, où je vais aller, tout ça. Donc, c'est probablement les gens qui l'amènent et qui le reconduisent. Et pour moi, il y a bien sûr la cinquième caractéristique qui est la solitude. Parce que vous savez, dans les malheurs de la vie, on est toujours seul. Bien qu'on soit entouré de gens qui peuvent être émus de compassion pour notre condition, c'est nous qui devons porter notre propre charge. Et on est seul à ce moment-là, on peut être seul et entouré et tout ça. On est seul à composer avec la vie, à composer avec les tourments, avec les angoisses, avec notre réaction face à tout ça, ce qu'on doit faire, les questions, les doutes que tout cela soulève. Quand je regarde à ces caractéristiques dans la vie de Bartimée, aveugle, mendiant, fils de Timée, assis sur le bord du chemin à chaque jour et seul, je me dis, quel espoir qu'il a que sa condition change. Quel espoir il a pour que sa condition change. Qu'est-ce qui pourrait changer ça? On pourrait dire que c'est le destin implacable de quelque chose. Puis on ne sait pas combien d'années il vit toujours ce rituel habituel et constant à chaque jour de sa vie. Mais la véritable question ce matin qu'on doit se poser, la vraie question n'est pas depuis combien de temps dure le problème de Bartimée, mais dans l'espoir de celui-ci, c'est pour combien de temps encore va durer le problème de Bartimée. Parce que nous, on sait, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, qu'il va y avoir un dénouement à tout ça. Mais la même question se pose à chacun de nous et nous confronte tous jusqu'à quand allons-nous vivre ce que nous vivons. Ou certains d'entre vous allez vous lever ce matin, littéralement inspiré par la foi de Bartimée, et dire, mais écoute, maintenant, ça suffit, je ne pensais pas une année de plus, ou un mois de plus, ou une semaine de plus à vivre ce que je vis. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses évoluent. Il faut que je dépasse ce que je vis. Lui, il est un homme sans avenir, sans espérance. Mais les choses vont changer à partir de ce contact très précis avec Jésus. Maintenant, c'est pas facile tout ça. La dernière chose que je veux faire dans la prédication et dans l'exercice de mon ministère, c'est de prêcher un évangile facile. Parce qu'à la longue, ça crée davantage de désespoir. Quand on propose une approche très magique de la vie, les gens y croient dans l'espace d'un instant, mais pour vivre encore davantage de désespoir après coup. Parce que la vie, elle est difficile. Il faut pouvoir cultiver cette foi qui va nous permettre de passer au travers des circonstances, passer au travers des épreuves, une foi qui littéralement va commencer à changer le cours de notre vie. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça va pour l'accent québécois? Ça va? Bon, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Trois obstacles que doit dépasser, en premier lieu, doit dépasser Bartimée pour triompher des circonstances de sa vie. Le premier obstacle, c'est, ou trois barrières littéralement, c'est la résignation. Et qu'est-ce la résignation? C'est la conviction profonde que les choses ne peuvent pas changer. La résignation, c'est l'absence de combativité. C'est la tendance à subir sans réagir. Okay? De quelqu'un qui, en fait, littéralement, est battu d'ores et déjà par lui-même. C'est un renoncement. C'est une acceptation de la fatalité. En fait, c'est du fatalisme. Et parfois, on va dire, c'est du déterminisme. J'ai beau tenter quoi que ce soit, ça ne change pas parce que voici ce que je suis, ce que je vis. Un mendiant aveugle, fils d'un père aveugle, comment les choses pourraient changer puisqu'elles durent depuis suffisamment longtemps? Quand je pense à cette dimension de la résignation, je pense toujours au poids du passé. Vous savez, on réalise pas comment le passé est un poids. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans des quartiers difficiles, avec des familles en difficulté, des familles en pauvreté, puis c'est fascinant de voir que de génération en génération en génération, les choses ne changent pas. Comme si, vous connaissez cette expression, les dés sont pipés. Ça veut dire que t'as beau essayer quoi que ce soit, résigne-toi, parce que les choses ne pourront pas changer. Je racontais au premier culte ce matin que dans ma famille, côté de ma mère, côté maternel, tous les hommes de trois générations sont des alcooliques. Toutes les femmes sont des femmes droites, fidèles, de bonnes épouses, et tous les hommes, c'est l'inverse. Du grand-père, de l'arrière-grand-père au grand-père, aux oncles et tout ça. Comme si le poids, encore une fois, le déterminisme empêche les choses de changer. Et les gens ne prennent pas conscience. C'est un peu comme si c'est mon destin, et c'est ma vie, et c'est comme ça que veux-tu. Il y en a qui naissent dans certaines conditions favorables. Moi, je suis né dans des conditions défavorables, et je vais accepter ça. Ça, c'est la résignation. Balzac disait, en se résignant, le malheureux consomme son malheur. Horace, le philosophe grec, disait, la résignation, dis-je, allège tous les maux sans procurer aucun remède. J'accepte, je me résigne. J'accepte mon destin et ce que sera ma vie. Premier obstacle que doit franchir Bartimée, c'est cette notion de résignation. Deuxième obstacle, la stagnation. N'oubliez pas, c'était un aveugle, fils d'aveugle, un mendiant aveugle, fils de père aveugle, assis sur le bord du chemin. Qu'est-ce que la stagnation? C'est la condition persistante de quelqu'un qui ne change pas et qui n'évolue plus. Maintenant, on pourrait voir ça par rapport à bien sûr, à toute la souffrance ou tout le poids du passé, de gens qui littéralement ploient sous le poids du passé. Mais il y a plein de croyants qui, après 20 ans ou 25 ans de vie chrétienne, ont stagné. Ils n'évoluent plus, ils ne progressent plus. Ils ne sont peut-être pas dans une énorme souffrance, mais les choses ne changent pas. Okay? Et toute cette notion de changement, c'est quelque chose qui doit être initié. En fait, l'inverse du changement, de toute cette activité, ou ce qu'on appelle la proactivité, le fait de saisir la vie à plein mille, c'est justement l'inverse de la stagnation. C'est quelque chose qui s'est arrêté comme si le temps s'est arrêté, à un point tel, vous savez, laissez-moi vous apprendre une expression québécoise. Nous, on dit souvent, plus ça change, plus c'est pareil. Je ne sais pas d'où vient cette expression. C'est une drôle d'expression. Vraiment du vieux français, quelque part, de paysan ou quoi que ce soit, qui fait que, en fond, on dit ça change. Ah, ça va? Ah, bien, plus ça change, plus c'est pareil. En fait, ça veut dire, bien, ça change jamais. Et plus ça change, plus le non-changement est omniprésent. À chaque jour, ça change pas. Et je mentionnais un peu plus tôt comme, moi, je m'intéresse au changement. Quels sont les facteurs qui font en sorte que les gens vont passer d'un état à un autre état? Et pour m'apercevoir en cours de route que les gens ne changent pas. Des personnes qui viennent à l'église 3 fois par semaine pendant 25 ans sans réussir à changer. Vous imaginez? Quand l'essence du christianisme, c'est la transformation de l'être humain. Alors nous, les prédicateurs, on s'époumonne, on travaille, on cherche toutes les façons, l'onction, la prière, tout ça. Et plus ça change, plus c'est pareil. Vous avez bien compris. Mais Bartimée va dépasser ça. Il va dépasser la résignation. Il va passer la stagnation. Cet état, encore une fois, de quelqu'un qui n'évolue plus et qui ne fait plus aucun progrès. Il doit dépasser un troisième état qui s'appelle la stigmatisation. Et peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce terme-là. Ça fait un peu stigmate et blessures physiques. C'est pas ça. La stigmatisation, c'est un concept un peu rattaché aux relations humaines. C'est en fait l'effet qu'a sur nous l'idée que les autres ont du peu d'espoir de nous voir changer. Imaginez le scénario que, durant cette réunion, quelqu'un se présente à la porte de l'église, quelqu'un que vous connaissez, le fils prodigue ou la fille prodigue, et la première réaction que vous allez avoir, vous allez dire à votre voisin ou à votre voisine, « T'as vu qui est là ce matin? Mais qu'est-ce qui lui prend de venir à l'église ce matin? Il était probablement en boîte hier soir, puis là, il se présente à l'église ce matin. Honte à lui! » Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est en train de fermer la porte, c'est en train de juger quelqu'un. C'est bien qu'il vienne, qu'il soit à l'église, parce qu'il y a plus de chances de passer de la mort à la vie ici qu'en dehors d'ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est moi vous dire ce que j'ai dit hier à la formation ou au séminaire. L'église, c'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les pécheurs. C'est la meilleure place en ville ici, dans l'ensemble de Paris, d'être ici ce matin, peu importe notre vie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va favoriser le changement. Mais le jugement qu'on porte sur les gens peut les stigmatiser, les empêcher. Je n'irai pas là. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous offenser. Je trouve inconcevable qu'on soit plus accepté dans un bar que dans une église. C'est pas normal qu'un bar soit un lieu d'accueil. Je dis, oui, ils vendent de l'alcool, ils vont boire un coup et tout ça. Oui, mais l'Église, ça sert à quoi? Jésus est venu pour les malades et pour les pécheurs. C'est la condition. D'ailleurs, c'est la condition pourquoi vous avez été ici originellement et pourquoi vous êtes ici à chaque dimanche. Parce qu'on a profondément besoin de lui. On a besoin de dépasser cette forme de jugement qu'on impose sur les gens et sans comprendre, sans saisir tout au fond que nous empêchons parfois la manifestation de l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Nous allons voir ce matin 6 choses que Jésus a vues dans la foi de Bartimée. Qu'est-ce que Jésus a vu dans la vie de cet homme pour dire « ta foi t'a sauvé ». Mais en quoi sa foi l'a sauvé? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce récit-là? On peut juste dire « il y avait cet aveugle, Jésus est arrivé là, paf, il l'a guéri, tout est réglé ». Non, non, c'est moins évident que ça. Un certain nombre de choses se sont produites et qu'on va tenter de cerner de façon un peu plus détaillée. Jésus a vu premièrement un homme qui cherchait. Le texte, il est bien simple. Le texte nous dit concernant Bartimée qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Okay? Tout simplement, la parole s'est glissée jusqu'à lui et elle a pénétré dans son oreille. Je vais vous annoncer une nouvelle ce matin. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et vous savez comment ça se passe. Les sourds ont l'ouïe très développée. OK? Et l'autre problème, c'est qu'on pense, je dis les sourds ont le goût développé. Effectivement, les aveugles ont le goût bien développé. En fait, je savais, c'était juste voir si vous m'écoutiez ce matin. OK? Et vous pouvez imaginer encore une fois, assis comme ça sur le bord de la route, les yeux fermés et tout ça, tout ce qu'il peut entendre comme bruit, il entend les bruits de pas, il entend ceux qui fredonnent, il entend les chants au loin, il entend peut-être une musique, il entend le bruit de la foule, il entend... Et tout d'un coup, il entend quoi? Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. La foule, elle est là. Puis entre les paroles des gens qui se parlent les uns les autres, gauche ou à droite, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et cela a commencé à éveiller quelque chose en lui. Un peu de levain fait lever la pâte. Et parfois, la pâte, c'est nous. Nous devons nous lever. Une semence qui rentre dans le cœur. Juste une info qui pénètre à l'intérieur de lui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ah ah! Et cela a donné un sens, a donné sens à sa vie, parce que cet homme-là cherchait. Quand on cherche, on trouve. Quel est le sens de cette recherche? La quête incessante de trouver une réponse satisfaisante à notre besoin. Je voudrais vous dire ce matin, n'arrêtez pas de chercher. N'arrêtez pas de chercher. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Bien sûr que ça ne répond pas toujours à l'instant même ou à la minute près. Mais je cherche, je ne cesse pas de chercher, parce que quand j'arrête de chercher, je stagne et je m'arrête et la vie ne progresse plus. Cherchez et vous trouverez, cherchez et vous trouverez, et cherchez encore, et cherchez encore, et cherchez encore, jusqu'au moment où les choses vont se dénouer. Cet homme, la manifestation de sa foi et sa quête incessante, constante, de trouver une réponse satisfaisante à ses besoins. Deuxième caractéristique. Jésus a vu un homme qui criait. Enfin, on pourrait dire Jésus a entendu un homme qui criait. Il a entendu que c'était Jésus. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ça, c'est la stigmatisation. On l'éteint un peu. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question suivante? Que serait-il arrivé à Bartimée s'il s'était tu? Rien. À partir d'une réaction, toute la vie change. Maintenant, je voudrais que vous preniez conscience de ça, parce que parfois, on est trop... En fait, ici, là, quand il se met à crier, c'est malséant, c'est inconvenable. On se tait, en plus, quand il est handicapé, s'il te plaît, tu te tais, là, continue à mendier et laisse la foule tranquille. Et vous savez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un feu qui monte à l'intérieur de lui. Puis il se met à crier, pas une fois, Jésus, aie pitié de moi, puis une deuxième fois, la foule, en plus. Voyez-vous l'énergie qu'il déploie pour aller au-delà de tout cela? Une seule fois, ils font taire, mais il crie encore davantage fort. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire entendre, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est, ce cri-là? C'est l'expression intense de la douleur de son cœur. La dernière des libertés humaines, c'est la capacité de dire ce qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir s'exprimer si nous sommes des êtres de communication. Et il n'est pas le premier à crier dans la Bible. Les enfants d'Israël ont crié pendant 400 ans, jusqu'au moment où ils disaient cette délivrance-là. Moïse a crié à certains moments de sa vie. David a crié. Job, pendant 38 chapitres, littéralement, crie de douleur et s'exprime avec douleur en disant, « Je veux une audience avec le Très-Haut. Je veux que lui me parle. » Et Dieu se révèle. L'expression intense de la douleur dans notre cœur. Et Dieu, écoute mon cri. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi, dis-je, sur le rocher trop élevé pour moi. Bartimée a crié. Si moi vous annonce une nouvelle ce matin, Bartimée était aveugle, mais n'était pas muet. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre, il pouvait s'exprimer et parler. Crier, clamer, réclamer, dire. S'exprimer. Jésus, aie pitié de moi. Il a crié la douleur de son cœur, le refus de son état. Est-ce que vous commencez à voir pointer ou émerger la foi? Quitter la notion de la foi de quelque chose d'un peu mystique, mystérieux, éthérique, ésotérique, appelez comme vous voulez. Vous voyez la foi dans une mécanique dans laquelle c'est quelque chose qui devient visible. On voit les gens agir. La femme qui a une perte de sang qui doit se rendre jusqu'à Jésus, elle a fait une stratégie elle a fait une planification stratégique. Il faut que je me rende jusqu'à lui. Il y a toute une séquence très bien planifiée. Les quatre amis qui descendent le paralytique par le toit ont pensé, il devait y avoir sûrement un ingénieur à quelque part chez ces quatre amis-là pour dire, on ne peut pas passer ni à gauche, ni à droite, ni en avant, la foule elle est là, compacte devant la maison de Jésus, ben, on va passer par le toit. Ça, c'est penser en termes de possibilités, de ne pas se laisser freiner par les obstacles. À la limite, c'est un peu fanatique, je vous dirais, mais c'est ça qui amène les changements dans la vie. Des gens qui osent se lever pour que les choses changent. Il a vu aussi, bien sûr, un homme qui croyait. Il a dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il n'a pas juste crié pour crier. Il n'a pas juste fait des sons, « Oh, je suis là! » C'est pas ce qu'il a fait. Il a proclamé quelque chose. Il a proclamé « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il y a une confession même dans l'énoncé de son cri. Bartimée est un homme qui a cru que Jésus était vraiment celui qui était la réponse à sa condition. Qu'il était vraiment, plus que cela, le Messie, celui qui pouvait changer. Le cri « fils de David » mentionne en fait deux aspects particuliers. L'expression est un titre messianique. Donc, il y avait quelque chose qui, quelque part, nous dit, il y avait une forme de théologie dans sa foi, quelque part, peut-être sa tradition religieuse, mais il y a quelque chose qui a commencé à prendre sens à l'intérieur de lui. Bartimée a cru Jésus capable de le guérir. En second lieu, fils de David fait allusion à celui qui est le conquérant, celui qui apporte la victoire, fils de David, comme le roi David, qui apporte la victoire. Il a cru. La conviction profonde que tout peut se produire. La foi. Et si tout d'un coup, tout était possible? Et si c'était possible? Quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous. Vous savez, les gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils se croient vaincus. Tout se joue à l'intérieur. La vie est une question de foi. Croire ou ne pas croire? Croire ou ne pas croire. Mais certains d'entre nous, la foi monte comme une sève dans les érables du Canada au printemps, donnant le sirop d'érable. Non, je suis un peu loin, là, je suis un peu en nostalgie de mon pays. Excusez-moi. Alors, revenons à nos moutons. Mais quelque chose qui monte à l'intérieur de soi-même et qui, quelque part, commence à grandir en termes de conviction. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Non pas de ceux qui se retirent et qui abandonnent et qui, finalement, laissent tout tomber, mais de ceux qui, de jour en jour, nous voulons continuer à croire. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'essence de notre vie. La foi, c'est littéralement l'essence de notre vie. Il y avait un homme qui croyait. Il y avait aussi un homme qui concédait. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Pardonnez-moi. Bartimée est un homme qui a littéralement cédé ses droits. Il avait un passé, vous savez, tout ce qu'il porte sur lui, ce manteau, cette tunique, ce manteau, c'est le symbole, littéralement, de sa vie et de son passé. Sans aller à des détails trop complexes en regard de cela, mais il ne résiste pas. Sans condition, sans résistance, à partir du moment où il entend Jésus lui parler, il laisse tomber tout ça. Okay? Cela paraît très, très, très simple, mais littéralement, les gens ont de la difficulté à quitter le passé. Parce que c'est comme une source de stabilité. Des gens, parfois, mais je ne le dis pas de façon vraiment péjorative, il y a des gens qui vivent dans ce que j'appelle un confort désespérant. Ou, prenez l'appellation qui vous sied le mieux, un désespoir confortable. Reste dans la condition, sans changer. Pourquoi reste-t-il ainsi? Parce que c'est connu. Et entre l'inconnu générateur de peur et d'anxiété, ça va m'amener où ça? Versus le connu douloureux, est-ce que vous pouvez me dire ce que les gens vont choisir? Le connu douloureux. Quel exemple que je peux vous donner? La sortie d'Égypte. 400 ans. Je sais que j'ai un bête de caméraman, mais il faut vivre avec un... C'est ça, un Québécois. La réalité de 400 années à crier et à plaider auprès de Dieu pour un libérateur, pour sortir de cet esclavage de l'Égypte. Et quand Moïse s'est présenté à eux, est-ce que vous croyez qu'ils ont sauté de joie? Vous dites, enfin, il était temps que tu arrives, Moïse, ça fait 400 ans qu'on t'attend. Ils ont sauté de joie? Non, ils ne l'ont pas cru. C'était comme invraisemblable, tellement habitué à la souffrance, à la douleur, à faire ses briques jour après jour, une condition qui se perpétue dans le temps. Qu'on peut même, et vous savez que 400 ans, presque 10 générations, peut-être même plus, dépendamment de ce comment vous quantifiez une génération. Les choses ont toujours été comme ça. Et le texte mentionne que lorsque Moïse s'est approché d'eux, l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Okay? La solution, elle est là. La libération est là. Mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui les empêche même d'écouter, d'entendre Moïse. En fait, ils ne croient pas, ils ne croient plus. Tout s'est arrêté en eux. L'angoisse, la peur de l'inconnu. Moi, il me semble que 400 ans à faire des briques, OK, et entendre mon grand-père, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père jusqu'à 10 générations, il me semble qu'il y a peut-être autre chose dans la vie que ça. Et moi, j'aurais... Mais peut-être que je me serais conduit comme eux aussi. Encore une fois, entre le connu douloureux et l'inconnu générateur qui génère, qui nous effraie littéralement. Voilà pourquoi ce Bartimée nous demande un geste de foi. Il jette son manteau, oubliant ce qui est en arrière. Il se porte vers ce qui est en avant. J'aimerais vous dire ce matin que le désespoir est en arrière, mais que c'est l'espoir qui est en avant. L'espoir n'est jamais en arrière. Il faut laisser larguer les amarres du quai du passé et voguer vers votre destinée. Restez pas rattachés à ce port-là. Les bateaux sont faits pour naviguer. Les humains sont faits pour vivre, littéralement. L'abandon volontaire de nos droits au profit de ceux de l'autre. Jésus, c'est toi qui vas donner le Seigneur à ma vie. C'est toi qui vas régner maintenant et à jamais dans ma vie parce que je veux devenir ce que tu veux que je sois, faire ce que tu veux que je fasse et avoir ce que tu as pour moi en réserve, ce que tu as en réserve pour moi. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, ne reçoive plus dans ce temps-ci, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quitter pour avoir ce qu'on ne pourra jamais perdre, au lieu de se contenir à quelque chose qu'on ne veut pas perdre, mais qui ne fera jamais gagner rien. Il y avait un homme aussi qui confessait. « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Drôle de question, vous m'accorderez que c'est une drôle de question, très particulière. Pourquoi Jésus lui pose-t-il la question? Il me semble que c'est d'une évidence simple. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Oui, les aveugles ne vous voient pas, mais vous les voyez. Et comment on fait pour savoir qu'ils sont aveugles? Comment on fait pour le savoir? Qu'est-ce qu'on découvre? Ils ont parfois la canne blanche. À d'autres occasions, ils ont un chien. Et à d'autres occasions, ils n'ont ni un ni l'autre, mais on peut le voir si on est assis à quelque part à une terrasse. On voit que leurs yeux sont particuliers. Ou bien, ils ont, bien sûr, les gens disent à chaque fois qu'ils ont des lunettes noires, mais maintenant, tous les artistes sont aveugles. Ils se promettent des lunettes noires. C'est le côté jet-set, OK? Mais la réalité, c'est qu'on voit, on le voit dans les yeux aussi. Souvent, il y a des mouvements oculaires. Parfois, les yeux sont un peu reculés dans leurs orbites. C'est évident, l'aveugle. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi?
Oui.
Mais pourquoi Jésus lui pose la question? Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, guéris-le, tout simplement. Tu n'as pas vu Jésus qui est aveugle? Mais le problème ne vient pas de Jésus. Le poids de tout ça ne repose pas sur Jésus, repose sur l'aveugle. Parce que nous, on s'entend que la réponse à la question devrait être que je vois, Seigneur, mais il y a d'autres options possibles. Il aurait pu répondre un peu de monnaie, quelques pièces pour un aveugle mendiant. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être un scénario? Si lui avait pensé en termes de petitesse, en termes d'impossibilité, et ce serait, vous imaginez, le roi des rois, le Seigneur qui est là et qui lui demande des pièces de monnaie. Ça peut être, il y a plein de croyants qui font ça, qui vivent comme ça avec le peu de leur vie. Je vais vous raconter une anecdote qui est un peu drôle, que j'ai racontée ce matin à la première réunion. Quand j'étais jeune, m'excuse, monsieur le caméraman, mais quand j'étais jeune, mon grand-père maternel, il était garagiste. En fait, il avait une concession, une agence d'une marque anglaise de voitures au Canada qui s'appelait à l'époque, ça n'a jamais marché cette marque-là, ça s'appelait, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? British Leyland, c'était la marque Vanguard. C'est une marque qu'on n'a jamais revue d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a juste confirmé notre famille dans sa difficulté à développer un esprit d'entreprise. Donc, ça n'a pas marché, hein, en un mot. OK? Mais moi, j'étais tout petit, je dirais 6, 7 ans et tout ça. Et j'arrivais dans le garage, puis les hommes, donnez-moi un coup de main un petit peu. Quand un homme, un enfant rentre dans un garage, mesdames, vous ne comprendrez pas parce que c'est exclusivement masculin. Mais c'est comme un temple. Vous êtes d'accord avec moi? Wow! OK? Les voitures partout, les capots ouverts, ça sent l'huile de garage, OK? Nous, les gars, on aime s'assalir dans l'huile et travailler avec les mécaniques et tout ça. On n'est pas juste des intellos à quelque part. Et j'étais donc chez mon grand-père, puis il y avait une pièce avec un drôle de meuble au fond. En fait, c'est plus qu'un meuble, c'est comme un gros frigo. Et je savais pas trop ce qui était écrit, mais j'ai réussi à décoder les hiéroglyphes qu'il y avait sur le frigo. C'était marqué Coca-Cola. Wow! Et là, moi, j'étais devant le frigo de Coca-Cola. Et là, mon oncle passait. Il me disait, « Tu veux quelque chose, mon gamin? » C'est pour ce que je lui répondais? « Je sais pas. » Il s'en allait. Okay. Et là, je restais là. Il repassait. Il dit, « Tu veux quelque chose, mon gamin? » Puis qu'est-ce que je lui répondais? « Je sais pas. » Est-ce que je savais? Bien sûr que je savais. Chaque fibre de mon être, chaque cellule voulait du Coca-Cola. Pour un petit garçon, c'est non négociable, c'est évident, comme c'est mieux qu'un biberon, je m'excuse mesdames, mais c'est Coca-Cola, là, OK? Maintenant, je passais à côté de quelque chose, puis lui, il jouait le jeu à travers tout ça, mais c'est une très grande leçon de David. Et pourquoi je disais « je sais pas »? Est-ce que quelqu'un de suffisamment psychologue pourrait me dire pourquoi je disais « je sais pas »? Non! À cause de mon éducation familiale, ma mère a été élevée chez les bonnes sœurs, puis demander quelque chose, c'est impoli. Ils vont croire que ta mère ne te nourrit pas ou ne t'abreuve pas, ne te donne pas rien à boire à la maison. Ouais, bon. Si ma vie était recommencée, et sachant ce que je sais maintenant, je dirais, je veux un coca, deux coca, trois coca, le frigo au complet. Pourquoi? Parce que j'étais bloqué par des inhibitions infantiles dues à toutes ces restrictions qu'on se met dans la vie, qui en fait sont un peu l'inverse de la foi. Il y a une certaine insolence dans la foi. Oser demander à Dieu quelque chose. Cet homme a littéralement confessé. OK? L'exposition claire, précise, ouverte et directe de notre besoin. Voici, Seigneur, ce dont j'ai besoin. Demandez et l'on vous donnera. Sixièmement, je vais demander au musicien de s'approcher. Il a vu un homme qui continuerait. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Petit détail qui semble peu significatif, mais il y a tout cet élément de continuité. Et ce que j'entends par continuité, c'est la sagesse, littéralement, de poursuivre la vie que Dieu m'offre. Vous savez, souvent, on va avoir une réponse à nos besoins à court terme. Voici ce qui m'arrive, Seigneur. Voici ce dont j'ai besoin. Mais on n'est pas beaucoup intéressé à continuer. Vous savez, moi, je connais même un homme qui a été guéri du cancer de façon miraculeuse et surnaturelle. Et aujourd'hui, ne suit même plus le Seigneur. Donc, on se dit, à quoi ça sert la guérison si ça ne change pas une vie au complet? Mais ici, dans ce texte-là, j'aimerais juste vous signifier que Jésus lui a dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Mais vous allez voir, dans certaines de vos versions, c'est marqué « ta foi t'a sauvé ». Okay? Et la perspective suivante, c'est que le mot « sauvé » qui est là, c'est littéralement « c'est sozo » en grec qui veut dire « ta foi t'a rétabli ». Donc, nous, on met beaucoup dans notre culture très pentecôtisante l'emphase sur la guérison physique, et bien sûr, c'est bien que ce soit comme ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est que son handicap l'empêche pleinement de vivre la vie que Dieu a pour lui. Ça devient quelque chose qui le restreint constamment. Et pour ça qu'on parle de handicap. Okay? Mais la réalité, c'est que sozo veut dire rétablir un état de fonctionnement optimal. En anglais, on dit « make whole », rétablir, restaurer, rebâtir. Et c'est tout ça le sens. En nous, on focalise sur l'aspect physique comme si le corps était si important pour Dieu. Bien sûr, c'est important. Puis, en tout cas, Seigneur, c'est important pour nous parfois, bien sûr. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est plus que cela. Et le texte y fait allusion à cette dimension. Il dit, le couvreur l'a vu et suivi Jésus dans le chemin. Il a continué à persévérer dans son cheminement. Il n'y a pas juste quelqu'un qui vient voir Jésus pour une réponse immédiate, quelque chose pour satisfaire ses propres besoins, mais il était prêt à suivre Jésus, à marcher dans ce chemin de vie, qui n'était pas simplement ponctué de cet événement particulier, mais quelque chose qui se prolongeait tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui est bénéfique. Parce que la vie, c'est long, c'est d'une longue durée. C'est ça le sens de la vie. C'est un chemin, il y a un cheminement long. Et quand je dis long, c'est pas dans le sens négatif. C'est pas juste un épisode. On a toute une vie à vivre. Toute une vie à vivre. Il faut pouvoir saisir les opportunités dans ce contexte-là. Et laisser leur filet et le suivre. C'est la même chose pour les disciples. Toute cette dimension de quelqu'un qui poursuit le chemin. C'est l'image de la continuité. C'est l'image, même, je dirais, à la limite, de l'honnêteté, de l'intégrité. Je suis pas venu juste à Jésus pour une réponse à mon besoin. D'un cœur qui est juste intéressé à avoir des choses de Jésus, mais quelqu'un qui est aussi intéressé à suivre Jésus sur le chemin de la vie. Est-ce que vous pouvez dire amen ce matin? Laissez-moi conclure avec cette dernière pensée. Regardez bien ce texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. L'auteur de l'Épître dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Qu'est-ce que l'auteur mentionne ici? C'est que la bonne nouvelle est annoncée. Il y a une parole qui a été prononcée, qui a été annoncée, qui a été transmise. Mais il y a deux groupes. Il y a ceux, en fait, elle est annoncée à tout le monde, mais il y a un groupe qui a quelque part un terrain fertile, plein de foi, et ça a commencé à changer quelque chose. Puis il y a un autre terrain qui n'a pas la foi. Le texte mentionne, la nouvelle est annoncée à eux aussi bien qu'à nous. Les deux ont entendu la même nouvelle, la bonne nouvelle, mais elle ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne crurent pas. Alors, le défi que j'ai devant vous ce matin, OK? Rappelez-vous, quand ce dimanche, il y a un Québécois qui a un drôle d'accent, qui est venu à Paris-Bastille, puis qui a prononcé une parole tirée de la parole de Dieu, une parole de vie, une parole de foi. Et est-ce que cette semence va trouver un terrain fertile dans votre cœur? Autrement dit, est-ce que cela va réussir à éveiller votre foi en disant, « Mais moi aussi, je veux croire. » Devant telle situation, devant ma condition qui ne change pas. Ça peut être pour quelqu'un autour de vous, ça peut être pour un mari, pour une épouse, pour un fils, pour une fille, ça peut être pour un emploi, ça peut être bien sûr pour une condition physique qui vous empêche de vivre pleinement, peu importe, mais certains vont oser se lever et dire hey, « moi je veux croire ». D'ailleurs, je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se lever en disant « moi je crierai pas ce matin, mais je veux croire, je veux croire. Seigneur, j'ai un besoin en ce moment. » Et je veux vous encourager à vous lever, tout simplement, en disant, « Seigneur, moi, je veux croire. Je me lève debout. Je me lève debout. Je prends position comme un cri, une manifestation du cri de mon cœur en me levant debout ce matin, comme expression de « Seigneur, j'ai un besoin. » Et cette histoire de Bartimée, cet illustre inconnu, ce mendiant où tous les gens passaient à côté de lui à chaque jour, sans s'imaginer qu'au moment où ce que toi t'es passé, Seigneur, il y avait la foi. Une foi qui n'était pas visible, qui ne se manifestait pas à tous les jours de sa vie, mais qui, là, a littéralement émergé comme une éclosion pour littéralement le mener vers un dénouement entier de sa vie.